Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu permets que nous puissions être dans ta présence pour glorifier ton nom, pour te célébrer, pour te louer, Seigneur. Mais nous voulons le faire aussi, Seigneur, par l'écoute de ta parole, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, tous les fardeaux que nous avons. Et tu nous dis, Seigneur, de venir nous décharger sur toi, de tous les fardeaux, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Nous voulons déposer à tes pieds tous les fardeaux, Seigneur, comme nous avons chanté. Et nous voulons, Seigneur, être libres pour t'écouter, pour recevoir ta parole, Seigneur, pour recevoir tes instructions, pour être encouragé, pour être fortifié, Seigneur. À toi la gloire et la louange au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 18. Luc, chapitre 18. À partir du verset 18. Luc 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces choses, il devint tout triste, car il était riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Voilà l'histoire que la Bible nous présente. C'est un homme qui était connaisseur de la loi, qui était pharisien. Et on voit que dès sa jeunesse, cet homme apprenait les Écritures. Cet homme pratiquait même, parce que lui-même il le dit. Il dit, dès ma jeunesse, j'ai pratiqué ces choses. Et dans la version de Marc au chapitre 10, verset 18, le Seigneur l'aima. Lorsque Jésus entend ça, Jésus est content d'entendre un homme qui pratique la parole de Dieu, qui vit la parole tous les jours. Et on revient à la question qu'il pose, il dit, que dois-je faire malgré tout ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Ou qu'est-ce que je dois rajouter encore pour être sûr d'avoir la vie éternelle? Et là, le Seigneur lui dit, maintenant que tu fais toutes ces choses, il te manque encore une chose. Tout ce que tu possèdes, vends-le et suis-moi. Alors lorsque nous voyons l'histoire de cet homme, c'est une belle histoire qui commence très bien. Un homme qui craint Dieu. Un homme peut-être qui, comme dans le langage actuel, on dira, il a sacrifié sa jeunesse. Un homme qui a suivi Dieu, qui a été sûrement un modèle correct, pour qui on a fait un très bon témoignage, qui a sûrement aimé Dieu, mais en même temps, attaché à ses biens. Tant qu'il était correct avec la loi et avec Dieu, il pouvait ménager les deux et vivre, continuer à vivre. Mais je pense qu'au fond de lui, il y avait une insatisfaction. Voilà pourquoi il vient voir Jésus pour dire, mais qu'est-ce que je dois rajouter? Parce que je fais déjà des choses, mais qu'est-ce que je dois faire pour rajouter à cela? Pour être sûr maintenant, certain, que j'ai la garantie d'être sauvé. Le thème de notre exhortation ce soir, c'est une prière. Disons, Seigneur, je veux t'aimer plus que tout. Si hier, Seigneur, je t'ai aimé, aujourd'hui, je veux t'aimer encore plus qu'hier, plus qu'avant-hier. Si hier, Seigneur, j'ai peut-être fait des sacrifices, je l'ai peut-être fait pour avoir une bonne, une approbation des gens. Les gens disent, mais cet homme, il est correct. Mais le frère Antel, oh là là, il n'y a aucun mot de travers. Mais telle personne, quand elle exhorte, quand elle parle, quand elle prie, mais c'est toujours des paroles de grâce qui sortent. Mais ça, c'est à nos yeux. C'est aux yeux des humains. Mais est-ce que c'est ça que Dieu attend de nous? Alors la prière, c'est, Seigneur, aide-nous. Nous voulons t'aimer plus qu'avant. Jésus dit, tout ce que tu fais est très bien. Maintenant, il te manque une chose. Il faut que tu ailles plus loin que cela. Il faut que tu aimes maintenant Dieu sans qu'il y ait des obstacles autour de toi. Puisque tu aimes Dieu, mais ce qu'il y a autour de toi, ta richesse, le peu d'honneur qui te reste, le peu d'héritage lié à un caractère familial, la façon de parler de temps en temps. Le Seigneur dit ça, ça constitue un obstacle. L'honneur que tu as. La fierté. Peut-être même des choses positives. L'intelligence. La capacité à comprendre la parole. À expliquer la parole. Le fait d'être hospitalier, ouvrir sa porte, sa maison. Aider les gens. Le Seigneur dit tout ça, c'est bien. Mais est-ce que nous serons qualifiés en fonction de nos exigences à nous ou en fonction des exigences d'un autre? On sait que lorsqu'on passe parfois des examens, parfois on sort de la salle d'examen, on vérifie, on a 20 questions, on dit « Ah, j'ai répondu aux 20 questions ». En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Tu dis « J'ai répondu aux 20 questions, là, c'est bon. » Là, si vraiment le jury est de mauvaise foi, j'aurai 18 sur 20. Et quand la copie est donnée, tu as 12. Tu dis, mais comment est-ce possible? J'ai répondu à toi. Ah oui, tu as répondu, mais c'est selon que toi tu vois les choses. Mais ce n'est pas toi qui décides, c'est un autre qui décide. Lui, il décide en fonction de son humeur, en fonction de ce qu'il attend. Parfois, tu as écrit parfois toute une page, mais lui, il attend juste un seul mot qu'il a donné dans le cours. Tu as écrit beaucoup, mais lui, il attend un mot-clé. Tant qu'il n'y a pas ce mot-là, il te donne un point tout simplement par courtoisie parce qu'il voit que tu as quand même sorti tout le cours. Et le Seigneur dit à cet homme, c'est bien, tout ce que tu fais est bien, mais il te manque une chose. Dieu veut que tu l'aimes plus que cela. Dieu veut que tu l'aimes plus que cela. Lorsque cet homme vient pour dire à Jésus, bon maître, donc lui-même il se considère en quelque sorte bon aussi. Et entre nous les bons, qu'est-ce que tu peux me rajouter comme conseil pour que je devienne aussi comme toi? Parce que je vois comment tu parles Jésus, je vois tout ce que tu fais. Eh bien, moi, je voudrais aussi devenir comme toi. Le Seigneur lui dit, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Une chose te manque. Accepte de renoncer à cette chose pour être agréé. Nous lisons Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Verset 34. Matthieu 22, 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il était... Luc 22, 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Voilà ces hommes, des pharisiens, comme on a dit, c'était des gens qui connaissaient la loi, qui enseignaient la loi, qui expliquaient la loi aux gens. Et pour qui, de qui on avait un très bon témoignage dans la communauté. Et donc ils viennent voir le Seigneur pour lui poser cette question. Ils disent, Maître, dis-nous quel est le plus grand commandement. Dis-nous, donne-nous la clé, une seule parole qui fait que nous allons être en quelque sorte complets, accomplis, malgré tout ce que nous faisons déjà. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En réalité, c'est la conséquence du fait d'aimer Dieu totalement. Mais Jésus dit, alors là, tu auras accompli, en quelque sorte, tout ce que dit la loi. Les pharisiens, lorsqu'ils viennent voir Jésus, comme on a dit tout à l'heure avec le jeune homme riche, dans leur façon de penser, ils ont hiérarchisé les commandements, de sorte que celui qui accomplissait une certaine catégorie de commandements était aussi respecté en fonction de ça. Donc il y avait des niveaux en fonction de la connaissance, en fonction du sacrifice qu'un tel peut faire, en fonction des dons qu'un tel peut faire. Et ben, toutes ces choses-là faisaient que les gens avaient du respect en disant « Ah, un tel, lui il a atteint un tel niveau » parce qu'ils étaient dans les œuvres. Et en fonction de ça, il y avait un respect. Mais Jésus explique quoi ici? Il dit non, en réalité, le problème ce n'est pas d'accomplir le commandement pour être vu. Non, le problème c'est quel est la motivation qui est dans ton cœur. Lorsque tu accomplis, lorsque tu honores ton père et ta mère, est-ce que c'est parce que tu as réalisé que c'est la bénédiction que Dieu m'a donnée pour que je puisse grandir, suivre une bonne voie? Est-ce que lorsque je fais du bien à mon prochain, c'est parce que je veux éviter que lui me fasse du mal en retour? Ou est-ce que je le fais parce que j'aime Dieu? C'est là que Jésus veut amener ces gens-là pour dire non, le problème, c'est pas de savoir quel est le grand commandement. Le problème pour Dieu, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Et Jésus explique, il dit, tu aimeras ton Dieu. En quelque sorte, finalement, si on aime Dieu, eh bien, tous les commandements qui sont dans la Bible, finalement, on va les accepter. Si on a l'amour pour Dieu, lorsque Dieu te dit, eh bien, donne la joue, lorsqu'on t'a frappé sur une joue, donne l'autre, eh bien, finalement, on va accepter ça. Parfois, ça va être difficile à la chair, mais puisqu'on aime Dieu, eh ben, on va se soumettre à la volonté de Dieu. On dira, bon Seigneur, puisque c'est ta volonté, je le fais par amour pour toi. C'est ça. La prière, c'est demandons à Dieu un amour total pour lui. Un amour total, et Jésus dit, de toute ta force, de toute ton âme et même de toute ta pensée. C'est de cette manière-là que tu aimeras Dieu. Et ces gens faisaient des choses, étaient vus des hommes, étaient respectés. Mais en réalité, comme Jésus dit, eh bien, c'était pour avoir une récompense. Et ils ont eu leur récompense, malheureusement. Et puisqu'ils ont déjà une récompense, ils n'en auront pas une autre. Alors la question aujourd'hui, c'est lorsque nous vivons tous les jours en tant que chrétiens, est-ce que nous vivons tout simplement... Quand on dit on doit être bon, on ne doit pas rendre le mal par le mal. C'est bien toutes ces choses-là, mais quelle est la motivation de notre cœur? Est-ce qu'on le fait pour qu'on voit que je suis un bon chrétien? Ou est-ce qu'on le fait puisqu'on aime Dieu? Là, les choses deviennent différentes. On ne dit pas qu'on devient infaillible par rapport au péché. Oui, on a le Saint-Esprit, cela est possible. Mais lorsqu'il arrive qu'on fasse mal, comme David, on dit « Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal parlé, j'ai mal répondu. Seigneur, pardonne-moi. » Parce que la façon dont j'ai répondu là, à mon mari ou à ma femme, j'avais la colère en moi. Et mon attitude ne t'a pas agréé, ne t'a pas fait du bien, ne t'a pas fait plaisir. Alors, Seigneur, pardonne-moi. C'est cela. Et c'est ça que Jésus est en train d'expliquer à cet homme en disant, si réellement tu as l'amour pour Dieu, eh ben, tu vas pratiquer les commandements. Tu ne vas plus te dire, eh ben, tuer, oulala, ça c'est un grand péché. Peut-être mentir, bon, c'est à la portée, on va se rattraper. Comme parfois, nous aussi, on hiérarchise en tant qu'humain, on se dit, eh ben, tuer, ah non, moi, ça je peux pas le faire. Or, le Seigneur dit, eh ben, celui qui tue ou celui qui a de la haine, le même péché, la même semence, c'est cette même semence qui produit les tueries qu'on voit. C'est la même semence qui est dans le cœur, qui est de la haine, ça va produire le même résultat. Ça produira le même résultat. Donc pour Dieu, il n'y a pas cette hiérarchie-là. Et le Seigneur dit, si on l'aime lui, alors on pourra accepter. Ça, c'est la première étape. Et lorsqu'on accepte, on dit, Seigneur, je reconnais que ce que ta parole dit est vrai, mais j'ai du mal. Seigneur, aide-moi à aimer. un tel. Seigneur, aide-moi à pardonner un tel. Seigneur, aide-moi à pratiquer ta parole. Seigneur, je vois que je suis attaché à tel ou tel bien qui fait obstacle à la marche avec toi. Seigneur, délivre-moi de cela. Mais la première étape, c'est d'accepter, de dire oui, c'est vrai, ce que dit ta parole est vrai. Nous lisons Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse 2. L'exemple d'une église qui a reçu les approbations du Seigneur, a été félicité par le Seigneur, et nous savons que Dieu, comme on a dit, son jugement, il n'est pas le jugement des humains. Lorsque Dieu dit d'une personne qu'elle est correcte, c'est par rapport à sa justice à lui. Et il parle de cette église d'Éphèse. Nous lisons Apocalypse 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voilà ce que le Seigneur dit à cette église. Il dit, tu as été correct, je connais tes œuvres, le travail que tu as fait. Tu as été persévérant. Il dit, tu ne supportes pas les méchants. Tu as éprouvé même les faux. Tu les as démasqués. Donc, en quelque sorte, ces gens étaient attachés à la parole de Dieu. Ils pouvaient voir qui est faux par ses enseignements et ne pas le suivre. Il dit que tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert même à cause de mon nom et tu ne t'es même pas lassé dans tout ce que tu as fait. Mais j'ai quelque chose à te reprocher. C'est que tu as perdu le premier amour. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, notre exhortation, c'est une prière à dire, Seigneur, donne-moi un amour total pour toi. Donne-moi un amour total pour toi. Qu'est-ce qui est arrivé à cette église? Eh bien, elle était tellement correcte, tellement parfaite. Parce que si le Seigneur lui-même dit ça, c'est que c'est vrai. Elle est arrivée à un niveau tellement de stabilité que finalement, les choses se faisaient mécaniquement, naturellement. Il y avait la persévérance, donc c'est-à-dire qu'ils étaient là tous les jours. Il y avait des enseignements, des réunions, des exhortations, il y avait des activités, il y avait tout ça, tout se faisait. Mais le Seigneur dit, tu as perdu le premier amour. L'amour que tu avais autrefois lorsque tu es venu à moi, lorsque tu as senti ta misère, lorsque tu t'es converti, cet amour-là, sincère, ben tu l'as perdu. Seigneur, nous te demandons que tu fasses que nous ayons un amour total pour toi. Un amour total. Non pas un amour qui calcule. En se disant, bon, je fais ça au Seigneur, en espérant recevoir ceci. On se souvient dans Matthieu 26, lorsque cette femme vient verser le parfum sur Jésus, les disciples sont indignés. Ils disent, mais à quoi bon? Mais ce que cette femme fait, mais c'est du gaspillage. On aurait pu prendre ça et utiliser ça pour aider les autres. Jésus dit, non, vous n'avez pas compris l'acte de cette femme. Cette femme a tout simplement exprimé l'amour qu'elle avait pour elle. Et c'est ça, moi le premier, c'est nous dire, un amour qui ne calcule pas. Qui ne calcule pas. Eh bien, si je fais ça, ben comment les autres vont réagir? Si je danse, comment les autres vont... Qu'est-ce que les autres vont dire? Moi, je suis connu pour être sobre. Si j'accepte de me laisser faire par les autres, comment les autres vont réagir? Le Seigneur dit non. Alors, si nous sommes dans ce cas-là, humilions-nous devant Dieu, disons, Seigneur, Nous avons peut-être été dans la situation de ce jeune homme qui a été véhément, qui a été à cheval sur la loi, qui a été sérieux, mais qui finalement s'est reposé sur ses acquis et est sorti de la volonté de Dieu. Seigneur, nous étions peut-être comme cette église qui fonctionnait. Frère Intel, il est toujours là. Pour donner un coup de main, pour aider, il est là. Sœur Intel, elle est toujours là. Mais est-ce que c'est quelque chose que nous faisons pour nous-mêmes nous sentir bien? Ou est-ce que c'est simplement puisque nous aimons le Seigneur? Je pense qu'à cette question-là, nous pouvons tout seuls répondre à cette question. Le Saint-Esprit est là, lui, il va nous parler. Mais nous-mêmes, nous pouvons répondre à cette question-là. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un frère ou une sœur qui va répondre à cette question-là pour toi. Nous-mêmes, on connaît la réponse. Mais le Seigneur est bon parce qu'il dit à cette église, il dit, regarde maintenant d'où tu viens et où tu te retrouves aujourd'hui. Alors moi, je te propose une chose, c'est que humilie-toi, repens-toi, dis, ah, j'ai mal fait, et viens à moi. Voilà ce que le Seigneur nous propose. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Il suffit de demander, de dire, Seigneur, donne-moi l'amour pour toi. Je veux t'aimer, Seigneur. Je pensais peut-être t'aimer, mais lorsque je vois l'exemple de mon Seigneur Jésus, je comprends, Seigneur, que je ne t'aime pas comme tu l'attends. Seigneur, je pensais peut-être faire des œuvres pour te plaire, mais lorsque je vois ta parole, je me rends compte que ce n'est pas cela que tu attends. C'est que mon cœur soit sincère devant toi. C'est cela. L'amour, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Même un enfant, un bébé peut aimer. C'est ça. Et c'est ça. Et c'est ce qu'on nous dit souvent avec Dieu. Les choses sont tellement simples. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui est à la portée de tout le monde. Quand Jésus dit « Tu aimeras ton Dieu plus que tout » à ses pharisiens, ils s'attendaient à recevoir une réponse cachée pour aller chercher dans les énigmes de Jésus, les paraboles. Non, ils s'attendaient à quelque chose. Mais Jésus dit « C'est simple. Sois comme un enfant, aime Dieu, c'est tout. » Mais cet amour-là, un amour vrai, total, sans apparence, sans vouloir recevoir quelque chose en retour, un amour véritable. C'est ça. Et avec Dieu, c'est tellement merveilleux. Comme le frère disait tout à l'heure, qu'avec Dieu, avec Jésus, nous avons la grâce d'être sauvés. Il suffit d'accepter, de dire « Seigneur, j'accepte ton salut. » Pas comme certains qui sont obligés de commettre des drames, de devenir comme des animaux, pour espérer recevoir quelque chose. Alors que c'est l'enfer qui les attend. Avec Dieu, c'est simple. C'est tellement simple. Il suffit de demander, d'être sincère, et tu es fidèle. Il va le faire. Si on demande avec foi, on dit, Seigneur, je veux t'aimer plus que tout. Dieu va le faire. On se rappelle, lorsqu'on a fait l'étude biblique sur les trésors de la Bible, on a parlé une fois que demander à Dieu. Et on a pris un exemple, c'était dans 1 roi, au chapitre 3, l'histoire de Salomon. Lorsque Salomon devient roi, qu'est-ce qui se passe? Il demande une chose à Dieu. Il dit, Seigneur, regarde maintenant, je succède à mon père David. La charge est trop lourde de passer derrière l'homme selon ton cœur. C'est très difficile. David aimait Dieu. David était un guerrier. David était fidèle à Dieu. David était humble. David avait tout ça. Il a péché aussi. Il s'est repenti. Et il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et lorsque Salomon arrive, il fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, voilà que je suis j'ai la responsabilité de ce peuple. Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse conduire ce peuple. Dieu lui dit, ah, voilà que tu ne demandes pas d'être protégé de tes ennemis. Tu ne demandes même pas d'avoir une milice qui puisse peut-être compenser les manques de capacité que tu as par rapport à ton père David. Tu demandes la sagesse pour conduire mon peuple. Et Dieu lui dit, puisque tu demandes ça, eh bien moi je te donne aussi la richesse. Je te donne la gloire, l'intelligence, je te donne tout avec. C'est ça. Et c'est ce qui nous avait été dit, c'est que avec Dieu, les choses sont tellement simples. Il a demandé ce qui était important, c'était la sagesse. pour conduire le peuple, pour savoir répondre, comment réagir, donner une réponse adaptée à la situation. C'est ça qu'il a demandé. Et tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la mise en pratique. Il y a eu l'histoire de deux femmes. Tout de suite, quand on lit, il y a eu l'histoire de deux femmes. Et là, Salomon rend justice. Et même ceux qui étaient autour de lui, ils se sont dit, mais tous les conseillers de David, tous ces gens qui étaient là pour le conseil, ils ont été étonnés eux-mêmes de voir la sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Tout ça pour dire que lorsque nous sommes simples avec Dieu, demandons comme des enfants, et Dieu va le faire. Et moi, ma prière, et je pense que c'est la prière pour nous tous aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, je veux t'aimer plus que tout. Je ne veux pas t'aimer comme ce jeune homme riche. Je ne veux pas seulement t'aimer comme cette église qui avait un radar pour démasquer les faux. Tout ça, c'est bien, mais cette église a fini par s'enfermer dans son fonctionnement. Se reposer sur ses acquis. Seigneur, moi je vais t'aimer plus que ça. C'est cela. Un amour total pour Dieu. Un amour total pour Dieu. Et quand on a un amour total pour Dieu, eh ben, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? La première, c'est que on obéit à Dieu. Même si ce que Dieu nous demande peut paraître insurmontable. Mais puisqu'on aime Dieu, on ne comprend pas tout. Eh bien, on se soumet. Nous lisons dans Genèse au chapitre 22. Genèse, chapitre 22. À partir du verset 1er, Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Amen. Voilà cette histoire qui, à lire, lorsque je lis cette histoire, ça fait mal. On imagine la scène, on imagine ce qui se passe dans la tête d'Abraham. Voilà que Dieu a fait une promesse longtemps avant Abraham. Et quelle promesse! C'est que de lui sortirait une grande postérité qui remplirait la terre. Il a attendu longtemps. Et lorsque nous avons lu au chapitre 22, verset 1er, on dit après ces choses, Dieu mit encore Abraham à l'épreuve. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées avant cela. Il a quitté sa patrie, Abraham. Il a connu des difficultés, mais il a été fidèle à Dieu. Et Dieu a été aussi fidèle à Abraham. Et voilà qu'il arrive à ce moment où Dieu lui demande son fils. Abraham prend le fils, il prend tout ce qui est nécessaire pour faire le sacrifice. Il part et sur la route, le fils lui demande, mais mon père, il y a tout ce qu'il faut, mais où est l'animal pour l'holocauste? Abraham dit, Dieu pourvoira. Il dit au serviteur, attendez-nous, nous on part et on reviendra. Est-ce qu'Abraham savait qu'il allait revenir avec Isaac? On ne sait pas, mais en tout cas il dit, on reviendra. Peut-être qu'il a vu par la foi, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était une souffrance pour lui. Et cet exemple, on le prend pourquoi? Pour montrer que lorsqu'on aime Dieu totalement, parce que Isaac, il avait un autre fils, mais Dieu avait bien dit à Abraham, ce n'est pas celui-là que j'ai choisi, c'est Isaac que j'ai choisi. Et donc, en donnant Isaac comme sacrifice holocauste, finalement, Abraham perdait la promesse. C'est comme s'il se tuait lui-même. Il se tuait lui-même. C'était une grande souffrance pour lui. Mais Abraham est allé jusqu'au bout. Et au moment où il veut égorger son fils, l'ange dit, arrête. Je vois aujourd'hui que tu crains Dieu. Et j'aime beaucoup la phrase qu'il rajoute au verset 12. On peut lire cela. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as même pas refusé ton fils. Il rajoute ton unique. C'est ça le véritable amour, l'amour total pour Dieu. C'est qu'on ne refuse rien à Dieu. On lui donne tout. On lui donne tout. Il y a parfois des domaines dans nos vies qu'on a réservés. Je me rappelle du témoignage d'un serviteur de Dieu à l'époque qui disait, moi j'aime Dieu, je sers Dieu, mais il y a des domaines que j'ai réservés en disant, ah Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi choisir ma femme. C'est dit parce que si Dieu choisit pour moi, ah, il risque de choisir une situation compliquée. Pourtant, c'était un homme qui aimait Dieu, qui avait l'amour pour Dieu, mais dans son cœur, même s'il ne le disait pas, bon, ce jour-là, il a dit, il a confessé, mais parfois, il y a des choses dans nos vies que nous avons, comme ce jeune homme riche, on aime le Seigneur, mais le Seigneur, lui, va nous révéler cela pour dire, voilà, il y a tel problème qui t'empêche de marcher avec moi. Il y a la colère, il y a l'orgueil. Tu ne supportes pas d'être contrarié. Tu ne supportes pas la contradiction. Quand on te contredit, tu te braques, tu te fâches. Ce que Dieu demande à Abraham, c'était dur, c'était pas facile. Et dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche chrétienne, il y a des choses parfois que Dieu va nous demander. Il ne va pas exiger. Nulle part on voit que Dieu a envoyé un ange pour pousser Abraham pour faire. Non. Dieu a parlé à Abraham, il a dit, donne-moi ton fils, c'est tout. Il dit lequel? Eh ben, ton unique. Il s'est exécuté. Dieu ne va pas forcer. Pourquoi il ne veut pas forcer? Parce que c'est là qu'on voit le véritable amour. Il s'exprime dans la liberté. Il s'exprime dans l'élan du cœur. Jésus dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qu'il y a dans le cœur qui va s'exprimer. Et tout le monde peut entendre. De même que ce qu'il y a dans le cœur, eh ben, ça va se voir aussi. Ça va se voir. L'amour qu'on a pour Dieu, Dieu fera qu'il y ait des situations pour qu'à ce moment-là, on manifeste véritablement que bon, moi, j'ai choisi ma vie, toute ma vie. J'ai choisi, pardon, le Seigneur Jésus, toute ma vie. C'est ça. Dieu permettra qu'il y ait ces situations-là. Et c'était le cas pour Abraham. Mais Abraham aimait tellement Dieu qu'il s'est humilié. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Quand on aime Dieu totalement, eh ben on s'humilie. Il y a des gens qui sont devenus des spécialistes pour discuter. Ils ont des arguments sur tout. On te dit, mais tu as dit ça. Ah bon, non, vous avez mal compris. On cherche toujours à discuter, même devant l'évidence de la parole de Dieu. Parfois même le Saint-Esprit lui-même te reprend. Mais parfois on se ment à soi-même. On dit, ah non, 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 non. On se persuade. Ne cherchons pas à discuter. acceptant. Le Seigneur nous dit, tu ne m'aimes pas assez parce qu'il y a tel élément. Tu cherches à paraître, tu cherches à plaire, tu cherches à être bien vu. Et ça, c'est une marque d'orgueil. Accepte de t'effacer. Ben, acceptons à ce moment-là, disons, Seigneur, c'est vrai. Seigneur, merci. Aide-moi à avancer. Un amour total pour le Seigneur. Lorsqu'on a un amour total pour le Seigneur, on vit non seulement la vérité, mais on défend la vérité. Nous allons lire un texte et je vais raconter un témoignage, une histoire, et c'est ça qui a inspiré notre exhortation de ce soir. Nous lisons dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 4. Au chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 18. Daniel, chapitre 3, 14 à 18. Nabucodonosor prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabucodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà l'histoire de ces hommes. Le roi a érigé une statue d'or. Et le mot d'ordre, c'était qu'au son des instruments qui ont été cités, que tout le monde se prosterne devant cette statue. Et ces trois hommes qu'on a cités refusent de se prosterner. Ils refusent. Et le roi fait appeler ces hommes. Il dit, est-ce de propos délibéré ? Donc c'est pour bien mettre la pression. En quelque sorte, il dit, j'ai entendu dire que vous refusez l'ordre que j'ai donné. Déjà, quand ça commence comme ça, on imagine. Hein. Il dit, j'ai entendu. Maintenant, en quelque sorte, il dit, je veux que vous puissiez me confirmer maintenant de vive voix, vis-à-vis, si ce que j'ai entendu là est vrai. Donc, je ne veux même pas vous poser la question. On va sonner de la trompette, de la guitare, tous ces instruments, et vous allez vous prosterner. Les hommes disent, roi, sache que nous n'allons pas nous prosterner. Il dit, ah bon ? Ben, sachez que si vous refusez, vous allez dans la fournaise. Il dit, roi, nous ne voulons pas discuter avec toi. Sache que notre Dieu va nous délivrer de ta main. Voilà la pression que l'ennemi fait. Et lorsque j'ai toujours lu cette histoire, je me suis dit, Seigneur, donne-moi l'amour pour toi comme ces hommes. Ils sont conscients que là, c'est la mort qui les attend. Et là, quand le diable met la pression, c'est terrible, hein. C'est terrible, c'est une véritable pression que la personne... Parfois, ceux qui sont autour, ils ne ressentent pas ça, mais la personne elle-même sait, elle connaît la pression qu'elle vit. Les hommes ont dit, roi, sache que même s'il arrive qu'on meure dans ce feu-là, dans quelques instants, on refuse de se prosterner. Alors, ce qui nous a inspiré, c'est le témoignage d'un frère. Il y a un frère qui vient me voir, il me dit, j'ai prévu de faire un voyage pour aller visiter ma famille pour les fins d'année. C'est un étudiant, et donc un bon étudiant qui bénéficie en tout cas d'un bon témoignage auprès de son maître de stage, ses professeurs et tout cela. Et il en a parlé à ses responsables, son maître de stage et au professeur à la fac. Et il y a celle qui s'occupe de son stage qui vient le voir en disant, tiens, on a réfléchi, on a pensé, comme tu nous as beaucoup aidé, tu as contribué à ce que nous puissions bien avancer dans le travail qu'on a fait, par tes recherches, par les investigations que tu as pu faire dans le cadre de tes études. Eh bien, on te propose de te payer le billet donc pour aller en Afrique avec tous les frais, tout compris. Ah, le frère dit, oh, mais gloire à Dieu, quelle joie! Quelle joie! Donc, quelque temps s'écoule. Ensuite, le maître de stage vient voir, c'est une dame qui vient voir encore l'étudiant, le frère, pour lui dire, bon, il va falloir que tu signes pour qu'on débloque les fonds. Il faut que tu signes maintenant tous les papiers qui ont été préparés pour toi. Et là, elle commence à mettre la pression. C'est là qu'il se dit, oh, c'est bizarre. Il vient me voir, il m'en parle. Je dis, ah, c'est bizarre. S'ils te mettent la pression comme ça, si c'est un don, ben quand tu iras à la fac, tu vas signer. Et comme on nous dit souvent, quand il y a la pression, n'agissons pas. Parce que généralement, le diable est derrière. Et qu'est-ce qui se passe le jour où il va pour discuter avec cette personne-là, pour comprendre, mais est-ce que vous prenez vraiment tout en compte? Il se rend compte, donc la dame lui explique, en disant, bon, on a fait un micmac, donc on a... Pour que nous puissions recevoir les fonds, on a dit que tu allais en mission, dans un stage, dans ton pays, en Afrique. Tu allais faire des recherches et dans le cadre de ces recherches, on t'a financé. Oh, le frère a dit, mais non, on ne s'est pas entendu comme ça. Là, c'est un mensonge. Moi, je vais pour visiter ma famille. Et le frère me parle de ça. Je dis au frère, il dit, mais... L'offre est trop belle. J'ai dit oui, c'est ça que fait le diable. L'offre est tellement belle, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est trop beau, comme on dit en France, c'est trop beau pour être vrai. Mais ça ne s'arrête pas, ça a duré 3 semaines. Pression, 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 pression. Et quand il voyait cette dame, elle dit, mais tu as signé? Il dit, non, je n'ai pas encore signé. Il tournait autour, il cherchait un moyen. J'ai dit, non, va voir la dame, assis-toi, explique la situation. Dis-lui que tu es chrétien et que tu ne peux pas participer à ces choses-là. Bon, il ne l'avait pas fait entre-temps. Et la dame continue à mettre la pression, elle continue à mettre la pression. Donc il m'appelle encore, il me dit, mais je fais quoi? Il me dit, la secrétaire vient me voir, elle me donne les papiers. Et quand elle voit ma réaction, déjà les premiers papiers qu'il avait, je crois qu'il les a perdus, la secrétaire lui donne des papiers. Quand elle voit la réaction, c'est comme s'il n'était pas emballé. Et la secrétaire est dérangée, elle se dit, mais... Pourquoi tu ne veux pas signer c'est l'argent qu'on te donne, le billet, aller-retour, tous les frais sont pris en charge. Mais pourquoi tu ne veux pas? Il dit, madame, je vais vous expliquer plus tard. J'ai dit, non, là, ce n'est pas bon. La prochaine fois que tu vois ta responsable, parle-lui clairement. J'ai dit, écoute, tu sais, Dieu est tout-puissant. Dieu peut passer par eux pour te bénir. Mais ce que Dieu veut, c'est que toi, tu sois quitte avec ces gens-là. Dis-leur la vérité. Dis-leur... Là, c'est un mensonge. Tel que les choses sont présentées, moi, je ne vais pas en Afrique pour un stage ou pour une mission. Moi, je vais voir ma famille. Maintenant, prenez toutes les mesures que vous voulez en conséquence de ce que moi je dis. Mais explique-leur que tu es chrétien, que tu aimes Jésus et que puisque tu es chrétien, tu ne peux pas participer à ça. Parce que tant que tu n'as pas dit ça, tu vas toujours tourner en rond. Et donc, finalement, il rencontre la dame, il lui explique, il dit, madame, ça fait 3 semaines. Que ça traîne, vous mettez la pression pour que je signe. Moi, je vais vous dire la vérité, moi, je suis chrétien. C'est vrai que je n'ai pas de moyens. Ce que vous me proposez est tellement beau, mais accepter ça, c'est accepter le compromis, c'est accepter le mensonge. Et moi, j'aime le Seigneur, j'aime Jésus. Il dit, mais c'est pas la première fois, t'es le premier qui réagit comme ça, mais on a toujours fait ça tout le temps. Mais pour qui tu te prends? Il dit, les autres, et moi, j'ai dit au frère, j'ai dit, tu sais, la réponse que tu vas donner à cette personne-là, ça va l'amener à réfléchir. Il y a parfois dans la vie des réponses qu'on donne aux gens qui vont les amener à réfléchir toute leur vie. Il va se rappeler pour se dire, ah, j'ai rencontré quelqu'un qui a été honnête jusqu'au bout. J'ai dit, oui, c'est ça. Peut-être qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. Elle me dit, mais moi, j'ai connu des chrétiens qui ont signé. Elle dit, oui, mais toi, tu aimes Jésus. Dis-lui ça. Dis-lui que toi, tu n'es pas plus que les autres. Non, toi, ton problème, c'est le Seigneur. Et donc, tu refuses cela. Il a expliqué à la dame, elle était en colère. Il dit, ben, dans ce cas, tu vas aller voir le directeur et tu vas lui expliquer la situation. Il a dit, moi, je n'ai rien expliqué. Moi, je n'ai rien demandé. Et la dame était sous pression. Parce que c'est elle qui devait aller rendre compte maintenant pour dire, bon, on a mal fait les choses, le jeune homme ne veut pas. Et il m'appelle, il me dit, bon, moi je suis libéré, moi j'ai dit la vérité, mais elle est très en colère. Je ne sais pas comment ça va finir. Et entre-temps, la secrétaire descend pour voir l'étudiant, elle lui dit, mais c'est bon, tu as signé? Il dit, non, je n'ai pas signé, mais j'ai expliqué. Il dit, oui, mais c'est quoi ton problème? Il dit, non, moi je suis chrétien, et un chrétien ne peut pas mentir. Là, tel que les choses sont présentées, c'est un mensonge. Et là, la dame lui dit, bon, si c'est ça le problème, on peut changer. Puisque ta conviction, puisque ta croyance t'interdit de faire ça, eh ben nous, on va présenter les choses maintenant comme un don qu'on te fait. Je dis, ah, voilà, que Dieu soit béni. Et en tout cas, toi, tu es allé au bout de ta démarche puisque tu aimes Dieu. C'est ça. Et c'est ça qui m'a inspiré ce thème. Je me suis dit, oui, aimons le Seigneur plus que tout. Il y a des moments où le diable va mettre la pression pour qu'on aille dans le mensonge, on ferme les yeux, on dit, ah non, là c'est tellement beau, une occasion comme ça, mais elle ne passera pas deux fois. Là c'est le mensonge. Et là il y a la pression. Si quelque chose est bon, pourquoi la pression? Pourquoi la pression? La pression est là pour précipiter les choses, pour faire les choses rapidement, et finalement, eh ben, on tombe dans les griffes du diable. Le frère a été honnête jusqu'au bout. Il a souffert, hein? Il a souffert parce que dans la tête, il se posait des questions. Entre-temps, il ne veut pas être en porte-à-faux avec sa directrice, son responsable de stage, en refusant. Entre-temps, il a besoin de cette aide-là pour aller en Afrique. Il est tourmenté entre les deux. Non, là, le Seigneur veut que tu témoignes devant ces gens-là, que tu dises que Jésus est vivant, il existe. Et qu'il y a des gens qui peuvent, même s'ils n'ont rien du tout, mais renoncer au compromis à cause de Jésus. C'est ça. Et c'est ce qu'il a fait. Et finalement, Dieu a changé les choses. C'est la secrétaire qui est venue pour dire, bon, on va changer les conventions, on va changer tout. Eh ben, on fera ça. C'est un don maintenant. Il dit, voilà. Il dit, Dieu veut te montrer qu'il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. C'est ça. Et moi-même, ça m'a encouragé. Je me suis dit, mais effectivement, Dieu est tout puissant. Il est capable d'utiliser même les personnes qui nous sont défavorables, comme c'est écrit dans le proverbe. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il fait quoi? Il dispose en sa faveur même les cœurs de ses ennemis. Dieu dit, l'or, l'argent lui appartiennent. Alors nous, notre part à nous, c'est quoi? C'est de l'aimer totalement, tout simplement. De l'aimer, c'est tout. C'est l'amour pour Jésus qui a fait que le frère a tenu. Il a tenu ferme. Il suffisait qu'il ferme les yeux. Il suffisait qu'il ne m'en parle même pas, qu'il en parle, peut-être qu'il en a parlé à d'autres ici. Il suffisait qu'il ferme les yeux, ni vu ni connu, il signe et puis c'est tout, il a son chèque, c'est tout. Mais il était dérangé au fond de lui. Il dit non, il dit je ne dors pas, j'ai la pression, lorsque je vais, je suis obligé de fuir la personne. Je dis oui, tu fuis parce que tu n'as pas affronté. Il faut affronter, lui dire, moi c'est Jésus. Voilà la raison pour laquelle je ne veux pas. Et le jour où il a fait ça, il a été libéré. Et c'est ça l'exemple des amis de Daniel. Le roi a entendu, il a entendu que ces gens ne veulent pas. Le roi convoque, il dit, est-ce de propos délibéré que j'entends cela? Les gens disent, ce que tu as entendu, roi, là, nous te disons en face. Nous, nous refusons de nous prosterner. Nous aimons tellement notre Dieu que nous refusons. L'amour total pour Dieu va nous amener à défendre la vérité, à dire la vérité. Il y aura des compromis qui vont être proposés. Ah, tu veux un travail, à tout prix, mais regarde, ça a traîné. Eh bien, regarde ce qu'on te propose. Toi-même, tu sais que le travail, il y a beaucoup de malversations, il y a beaucoup de mensonges. Mais puisque ça fait longtemps que tu as cherché, bon, tu dis, bon, Dieu comprendra. Non. Non. C'est vrai qu'il y a une certaine souffrance, mais la joie qui est procurée après est tellement belle. Est tellement belle quand on a pris position pour le Seigneur. Et la conséquence, c'est que les gens sauront maintenant qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il a des véritables disciples. Comme le roi lui-même, lorsqu'il met ses gens dans la fournaise, il vient voir, il demande à ses gens, mais n'avons-nous pas mis 3 personnes? Ils disent, oui, maître. Mais il dit, comment ça se fait qu'il y en a un 4e? Et le 4e a un visage d'ange. Il dit, faites-les sortir. C'est cela. Demandons à Dieu l'amour total, comme ces gens. Il est écrit qu'ils n'ont pas craint même la mort. Ils ont tellement aimé Dieu. Ils ont fait le témoignage de Dieu et au point qu'ils n'ont même pas craint pour leur propre vie. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il y aura des situations qui vont se présenter. À ce moment-là, on va On sait que quand je prends cette décision, je passe à côté d'une belle affaire, je passe à côté d'une belle proposition. Mais puisque j'aime Dieu, eh bien j'accepte. J'accepte. C'est cela. Et c'est ce qu'a fait le frère. Il a accepté cela. Quand on aime Dieu, eh bien on ne joue pas avec le compromis. Encore une histoire courte, c'est un jeune qu'on avait accueilli au foyer qui venait d'Angola. Il servait Dieu là où il était. Et lorsqu'il est arrivé, il était chez sa sœur, donc il est venu au foyer, il allait en week-end chez sa sœur, et il se rend compte que finalement, son nom n'était pas son nom, l'âge n'était pas son âge, tout avait été changé, tout avait été baissé. Et il vient me voir et me dit, mais voilà le problème, moi, en Afrique, je servais Dieu. Je suis arrivé, je me rends compte que tout ce qui a été fait ici est faux. Et il me dit, eh ben moi, qu'est-ce que je peux faire à ma sœur ? J'ai dit, bon, parle à ta sœur. En plus, elle est chrétienne, soi-disant, elle va dans des églises. Je lui ai dit, dis-lui la vérité. Donc, il est allé, il a dit la vérité, évidemment. Toute la famille, contre lui, c'était des gros problèmes. Mais, au moins, il s'est dégagé. Lui, il a dit, non, moi, je ne veux pas participer à ces choses-là. Moi, j'aime tellement Dieu que je ne peux pas cautionner le mal tel qu'il est. Même si c'est ma sœur. Sa sœur lui dit, mais tu ne sais pas que je suis pas là en prison, si ça se sait. J'ai dit, oui, toi, dis à ta sœur. Et finalement, il a été envoyé en famille d'accueil. En famille d'accueil, il était dérangé au fond de lui. Il est allé voir la dame de la famille d'accueil pour lui dire, « Madame, j'ai quelque chose à vous dire. » La dame est musulmane. Il dit, « Oui, bah, dis-moi. » Il dit, « Voilà, j'ai un problème. J'en ai parlé à mes éducateurs et j'en ai parlé à ma sœur. Je vous en parle aussi. C'est que tout ce qui a été présenté dans mes papiers, tout est faux. Mais moi, je suis dérangé. Lorsque je prie, je ne suis pas à l'aise. Lorsque je vais à l'église, je ne suis pas à l'aise parce que je sais que j'ai un poids au fond de moi. Et je vais vous dire la vérité. » Et donc, il a dit la vérité à la dame de la famille d'accueil. La femme lui dit, bon, maintenant, comme tu m'as dit, c'est moi qui suis responsable. Donc, c'est moi qui vais voir ce que je vais faire avec l'aide sociale à l'enfance. Donc, toi, ne t'en préoccupe pas. Et il était content parce que, finalement, lui, devant Dieu, il a été au clair. Il a dit les choses devant Dieu. Il a été clair. C'est cela. L'amour pour Dieu va nous amener aussi à prendre des décisions, à refuser le compromis. L'amour pour Dieu, troisièmement, va nous amener à témoigner du Seigneur, à le servir. Puisqu'on l'a au fond de nous, puisqu'on a les mêmes désirs que le Seigneur, le désir de sauver les âmes. Et cet amour-là va nous amener à partager cela autour de nous, à vivre la vie du Seigneur. On se rappelle, Jérémie dit dans Jérémie 20, au verset 9, il dit, mais lorsque je décide de me taire, lorsque j'entends tout ce qui est dit, toutes les méchancetés, il dit, mais Seigneur, que faire? Je parle, on se moque de moi, mais il dit, Seigneur, tu m'as séduit, tu as touché mon cœur. Et lorsque je dis, puisqu'ils sont mauvais, je veux me taire, eh bien, il dit, il y a un feu en moi qui me pousse à parler. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Il faut que je parle. C'est ça. Et c'est ce que nous désirons, c'est ce que je désire. C'est cet amour pour Dieu qui nous pousse à témoigner librement du Seigneur. À dire ne serait-ce que Dieu t'aime, Jésus t'aime. Non pas quelque chose calculé où on se dit à telle heure, je vais aller à tel endroit, je veux faire ci, je vais... Non, c'est au fond du cœur. Puisque ça vient du cœur, eh ben on le dit tout simplement. C'est notre vie, c'est ça. C'est cela. L'amour pour Dieu va nous amener à voir les choses comme Dieu voit. Et comme Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu finiras aussi, puisque tu aimes Dieu, tu finiras par aimer les humains, tu finiras par aussi avoir compassion pour les humains, tu finiras par désirer que les humains soient sauvés, tu feras ce que toi tu peux faire pour que les humains soient sauvés. Non pas qu'on peut produire le salut, non, on ne peut pas le faire, mais en tout cas, nous, on a une part, c'est de témoigner du Seigneur. De dire qu'il y a un Dieu qui existe, qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour sauver les hommes. C'est cela. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide, que nous puissions véritablement avoir cet amour total pour lui. Que nous puissions avoir cet amour qui ne calcule pas. Cet amour qui est totalement délibéré. On dit, Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, comme Abraham, c'est écrit, il a tellement craint Dieu, il a tellement aimé Dieu qu'il n'a même pas cherché à épargner son seul fils, puisqu'il aimait tellement Dieu. comme cette femme qui a versé le parfum aux pieds de Jésus, qui aimait tellement le Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous édifie, Seigneur, et qui me parle à moi le premier, Seigneur, lorsque, Seigneur, nous avons eu affaire à cette histoire, de ce témoignage de ce frère qui a manifesté tellement de l'amour pour toi, Seigneur, au point de refuser le compromis. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à t'aimer, Seigneur, de cette manière, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer comme Abraham, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer comme ces amis de Daniel, Seigneur, qui savaient qu'ils avaient affaire à la mort. Mais ils ont choisi de rester avec toi plutôt que d'être loin de toi dans le mensonge. Seigneur, tu vois ce qui est au-dedans de nous est un obstacle, comme ce jeune homme riche, Seigneur. Tu vois ce qui est au-dedans de nous, Seigneur, nous empêche de t'aimer totalement, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous délivres de cela, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Donne-nous l'amour pour toi. Donne-nous l'amour pour toi, Seigneur. Seigneur, que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, que ton amour nous presse. Que nous puissions vivre pour toi, Seigneur. Que nous puissions réaliser, Seigneur, l'amour que tu as manifesté, Seigneur, pour nous qui étions mauvais perdus, afin que nous puissions aussi t'aimer. Totalement, Seigneur. Seigneur, agis dans nos cœurs, Seigneur. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu fidèle, agis dans nos cœurs. Tant de fois nous discutons, Seigneur. Tant de fois nous donnons des arguments, Seigneur. Même lorsque les évidences sont là, Seigneur, nous restons sur nos positions. Mais Seigneur, nous voulons t'aimer totalement. Au point, Seigneur, de ne pas résister, d'accepter de nous soumettre, d'obéir, de refuser, Seigneur, le compromis, le mensonge. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Merci de changer nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, de parler à nos cœurs. Merci Seigneur de nous transformer par ton esprit, Seigneur. Tu as dit de demander, Seigneur, afin que notre joie soit parfaite, Seigneur. Seigneur, nous te demandons l'amour pour toi. C'est tout. Nous te demandons l'amour pour toi, Seigneur. Que ton nom soit béni pour ta fidélité et ta grâce, et pour ta parole au nom de Jésus. Amen.